si vous mettez tous vos téléphones à off, s'il vous plaît, à part Patrice. Parce que Patrice est sur appel. Et puis, la dernière fois qu'il est venu nous partager la parole, on a oublié de faire cette petite annonce-là. Et puis, son téléphone a sonné dans le milieu de son message. Puis, il a dit « Attends une minute, il faut que je réponde à mon téléphone. » Je n'avais jamais vu ça. On aurait dit « On va ça sur YouTube, puis mettre ça sur la chaîne YouTube. » Mais on est tellement heureux qu'à travers son travail ici, comme remplaçant, comme vétérinaire, que Patrice a à cœur de venir partager la parole de Dieu. Puis c'est bien qu'il répond au téléphone, on comprend. Puis c'est ça, on va lui donner la parole. Les jeunes qui ont une classe du dimanche, vous pouvez aller maintenant à votre classe du dimanche.
Bonjour. Je remercie Seigneur de la bénédiction que j'ai de pouvoir être avec vous ce matin. Je vous remercie aussi de me donner le privilège de pouvoir partager la parole. En tout cas, on peut dire que le prédicateur chez vous ne peut pas s'appuyer sur la chair pour prêcher. La chair, c'est bon. Ce printemps, j'ai amené trois prédications sur l'importance de la prière. J'aimerais partager ce matin la deuxième de ces prédications-là. Mais je vais vous apporter la conclusion de la première en premier. On prie pour. Je prie personnellement que Dieu fasse un réveil spirituel au Québec. Puis quand on prie pour un réveil, qu'est-ce qu'on espère voir se produire? Comment?
Un réveil.
Oui, mais quoi en particulier?
L'ouverture des églises.
Les conversions. Les chrétiens qui sont engagés
en feu,
engagés dans l'évangélisation et particulièrement la prière. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurer en Jésus, ça équivaut à être dépendant de lui, être en communion avec lui, d'être en relation constante avec lui. Puis, je peux pas parler pour vous, je ne vous connais pas, mais moi, je me connais très bien. Et je sais que je suis quelqu'un de très indépendant. Dans ma famille, quand j'étais tout jeune, ce qu'on m'a appris, c'est « fais ton chemin et occupe-toi pas des autres ». Je suis quelqu'un d'assez indépendant. Ça m'a servi au début de ma conversion que ma famille et mes amis ont essayé de tout me décourager d'être chrétien. Mais dans ma marche avec Dieu, c'est pas à ça que le Seigneur m'appelle. Il m'appelle d'être dépendant de lui tout au long de ma journée. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Les promesses que Jésus nous a faites, quand ils sont portés par la foi qu'on a en lui, peuvent accomplir des choses extraordinaires. Ce n'est pas nous qui les faisons, c'est lui qui le fait, qui réalise ses promesses. C'est pour ça que ses paroles sont tellement importantes. Alors, quand on dépend de lui, puis qu'on a foi dans ses promesses, eh bien, Dieu fait des choses, il accomplit des choses extraordinaires. Là encore, je ne peux pas parler pour vous, mais si je regarde ma propre vie, je trouve que souvent je suis assez incrédule. Je demande à Dieu, je suis pris sans avoir pleinement une conviction de ce qu'il va faire, sans trop y croire. Puis, bien des fois, je pense même pas à le demander. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous remarquez, Jésus parle au pluriel, mais c'est aussi d'être en communion les uns avec les autres. Jésus nous donne L'Esprit Saint nous donne son amour pour Dieu, puis il nous donne son amour les uns pour les autres. Alors, quand on est en communion avec Dieu, on est en dépendant de lui, quand on s'adresse à lui en s'appuyant sur ses promesses par la foi, puis qu'on aime Dieu, puis qu'on s'aime les uns les autres, je pense que Dieu il est prêt pour accomplir un réveil. Ce qui fait que je constate, je réalise qu'il y a trois obstacles à nos prières. Mon indépendance, mon incrédulité, mon manque d'amour. Puis honnêtement, je réalise que je ne suis pas capable de produire ça dans mon naturel. Si je n'étais pas sauvé, puis j'arrivais devant Dieu, Dieu dirait, moi, je t'ai créé pour que tu sois dépendant de moi en toutes choses. 1/10, puis je suis généreux. Je t'ai créé pour que tu t'appuies sur moi en toutes choses, puis que tu me fasses confiance. 1/10. Je t'ai créé pour que tu m'aimes de tout ton cœur, puis tu aimes et tu serves ton prochain. 1/10. Point. La note ne sera pas bien haute, hein? Mais merci, Seigneur Jésus m'a sauvé. Que c'est par grâce, uniquement, pas selon mes mérites. Je réalise que plus je m'approche de Dieu, plus je vois comment est-ce que le péché a des ramifications et est subtil dans ma vie. C'est profond. Et plus j'apprécie la grâce qui m'a été faite en Jésus-Christ. Pendant qu'on célébrait le repas du Seigneur, c'était à ça que je pensais tantôt. J'étais là, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Tu m'as sauvé de quoi? D'énorme, de grand, de gros. Puis à toi soit la gloire. Faites veillons, frères et sœurs, sur trois choses. Notre communion avec lui, c'est ce qui est d'être dépendant de lui, c'est ce qui est le plus important. D'avoir foi en sa parole, puis d'être animé de l'amour de son Esprit Saint. C'est les trois choses les plus importantes, puis c'est les trois choses à rechercher à tous les jours dans notre vie pour connaître de plus en plus un réveil. Bien, avant de continuer, si vous voulez bien, on va prier, puis on va amener ça devant le Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir révélé ta grâce, ton salut, et que ça ne dépend pas de nous, mais entièrement de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci de m'avoir racheté et de m'avoir pardonné. D'être si souvent indépendant, si souvent incrédule, et de manquer tant d'amour. Seigneur, je suis conscient, je ne peux pas produire ça par moi-même. Je te prie de nous remplir de ton Saint-Esprit et de faire grandir dans nos cœurs. Que toi, tu le fasses, Seigneur, tu fasses grandir dans nos cœurs, dans nos vies, cette dépendance, cette communion, cette foi et cet amour que seul toi peux produire. Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs ce matin par ta parole pour qu'on réalise le privilège, la bénédiction qu'on a de pouvoir venir à toi en toute situation, en toute chose. Au nom de Jésus. Ce matin, fais de moi une maison de prière. On va lire le passage dans Marc 11, à partir du verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze. Verset 15, le lendemain. Jésus entra dans le temple, puis il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. La prière était au cœur de la vie et du ministère du Seigneur Jésus. Souvent, c'est rapporté qu'il s'isolait pour prier. Et même les disciples, en le voyant faire, lui ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Jésus voyait la nécessité de prier, alors que lui était sans péché, à combien plus forte raison pour nous. Jésus a vécu une vie de parfaite dépendance et communion avec son Père. Alors, il y a plusieurs passages qui nous montrent que Jésus s'isolait pour prier, qu'il allait dans un lieu désert, qu'il pria, qu'il allait à la montagne pour prier, qu'il passait toute la nuit en prière, qu'il priait à l'écart. Jésus n'était pas un activiste, c'était d'abord un homme de prière. On le lit dans Luc 5, que sa renommée se répandait de plus en plus, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se retirait dans les déserts et priait. C'était sa priorité. Moi, je me qualifierais plus comme un homme d'action. J'aime quand les choses, ça bouge, ça avance, puis qu'il y ait de l'action. Mais Jésus, la prière passait avant l'action. Son action découlait de sa vie de prière. Les disciples ont bien compris cette priorité. Alors, on lit qu'au tout début des Actes des Apôtres, qu'ils étaient tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Acte 2, 42, ils persévéraient dans la prière. Puis dans Acte 4, 31, c'est quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tout un impact, hein? Wow! On soupire après ça de voir ça. On va parler ce matin comment notre priorité doit être notre Père qui est au ciel. Tout d'abord, ma maison. Jésus est allé au temple et l'a regardé, l'a observé et il a été scandalisé. Ce qu'il voyait pour lui était totalement inacceptable. Et c'est pas là qu'il n'a pas agi tout de suite. Il s'est retiré certainement que dans la nuit, il a prié là-dessus. Il a médité sur qu'est-ce qu'il allait faire. C'est une des rares fois où on voit Jésus se mettre dans une sainte colère. Une colère qui est réfléchie, qui est contrôlée, qui est maître de lui-même, hein, chassant ceux qui vendent, qui achètent. Il n'est pas en train de blesser personne, mais il les chasse, renversant les tables des changeurs, les sièges des vendeurs. Il ne laisse personne transporter quoi que ce soit dans le temple. Pour Jésus, il y a une chose qui est claire. On ne fait pas n'importe quoi dans sa maison. Sa maison, c'est un lieu pour honorer Dieu, l'adorer, se consacrer à lui, pour faire sa volonté. Pas pour marchander et utiliser la religion pour s'enrichir. C'était scandaleux. Vous ferez remarquer que Jésus a vécu dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance a commencé quand? Exactement. D'abord, ça prenait l'expiation. Hein? Ça prenait que Jésus meurt pour nos péchés. Alors, on lit dans Jérémie 31, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » On s'en prenait l'expiation et la Pentecôte. Dans Ézéchiel 36, on lit aussi, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, pendant le ministère de Jésus, c'était une période de transition qui inaugurait la nouvelle alliance, qui est arrivée exactement à la Pentecôte. Alors, question. Du temps de Jésus, quand Jésus était là, pendant son ministère, il était où le temple?
Jérusalem.
Comment?
Jérusalem.
Le temple, c'était lui. Oui. Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Je l'ai mis à l'écran. Il a dit aussi « Il y a ici plus grand que le temple, » en parlant de lui-même. Rappelez-vous quand Salomon a inauguré le temple, la gloire de Dieu est descendue pour venir dans le lieu très saint. Et juste avant la destruction par l'armée babylonienne, juste avant la destruction du temple, la gloire de Dieu s'est retirée. Quand le temple a été reconstruit, ce n'est pas mentionné qu'elle est revenue. Elle est revenue en la personne du Seigneur Jésus. La présence de la gloire de Dieu est venu dans la présence du Seigneur Jésus. Puis une fois que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit et nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Et la gloire de Dieu est venue à la Pentecôte dans le don du Saint-Esprit qui a été, dans le baptême du Saint-Esprit qui a été accordé aux croyants. La gloire de la présence de Dieu est dans l'Église, dans les croyants nés de nouveau, habités du Saint-Esprit. Ce qui fait que c'est important pour nous de rechercher la sanctification. Paul va nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? » Parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Or, Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Une maison de prière. Est-ce que ta maison, ton temple, est une maison de prière? Es-tu conscient que tu es né de l'Esprit-Saint et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qui est la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'une maison de prière? La prière, c'est un mot qui est général, qui inclut bien des façons qu'on peut s'exprimer à Dieu dans nos prières. Comme par exemple l'adoration, une maison d'adoration. Dieu est le créateur parfait On l'a chanté tout à l'heure, trois fois saint, juste, vérité, amour, justice parfaite, compatissant, bienveillant, bon, fidèle. Il est extraordinaire. Il nous a rachetés. Il nous a tant aimés. Il est digne de toute notre adoration et de notre consécration à lui. Une maison d'adoration. Une maison de louange. Dieu fait des choses merveilleuses. Il agit en nous. Il agit au milieu de nous. Il fait des choses extraordinaires. Et quand on les observe, qu'on les reconnaît, eh bien, ça élève des louanges, de nos cœurs des louanges qui s'élèvent jusqu'à lui pour le célébrer. Dans Éphésiens 5, 19, on lit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » J'espère que ce n'est pas juste le dimanche matin que vous louez le Seigneur. C'est tout au long de la semaine que vos cœurs reconnaissent les merveilles qu'il fait. Il s'élève jusqu'à lui. Une maison d'adoration et aussi une maison de louange, une maison de reconnaissance. Es-tu reconnaissant envers Dieu? Moi, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié vide. Il y en a qui voient le verre à moitié vide, puis il y en a qui le voient à moitié plein. Moi, naturellement, le verre est tout le temps à moitié vide. Je vois tout le temps les côtés négatifs plutôt que les côtés positifs des choses. Le Seigneur m'a béni, m'a donné une épouse, elle, c'est le contraire. Qu'elle a un équilibre. Merci, Seigneur. Mais, il faut que j'apprenne à voir, à être reconnaissant des choses que Dieu fait dans ma vie, même dans les petites choses. Tout au long de la journée, d'apprécier les choses que Dieu fait pour nous personnellement, puis être reconnaissant. Rien que de son salut, de sa paix, de sa grâce qu'il nous a manifestée, de son amour qui remplit nos cœurs, on peut lui exprimer. Puis qu'on, à des moments qu'on le constate, qu'on le voit, dire « Hey Seigneur, ça vient de toi ça, je te remercie. » Dans Colossiens 2,7, on lit « Abonder en action de grâce. » Abonder, c'est juste un petit peu ça. Mais non, ça déborde! C'est en masse! Abonder en action de grâce. Ça aussi, c'est une maison de prière. Une maison de confession. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Non seulement on a l'assurance qu'il nous pardonne, mais dans le mot purifier, il y a la notion de délivrance. Il nous libère à travers la confession. Parce que si on manque de confession, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein, si on reconnaît pas nos péchés, on les confesse pas, qu'est-ce qui se produit? Bien, le psaume 32 nous le dit. Qu'est-ce qui se passe? Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Un manque de confession, ça produit une sécheresse spirituelle. Un appesantissement. Tu te sens plus lourd, tu te sens. Le contraire, c'est de se sentir tout léger. T'as l'impression de flotter un peu. Tu te sens bien, tu te sens. Manque de confession, c'est le contraire. Une sécheresse, un appesantissement. Sens-tu que ta vie spirituelle est sèche? Manque de vigueur, de joie, de légèreté, de fait. Eh bien, écoute la suite du psaume 32. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. C'est un aspect important, notre communion avec Dieu. Déjà, on a le privilège de savoir que nos péchés, Jésus a déjà payé pour ça. Mais on est appelé à pas les reconnaître, les avouer et les délaisser. Et quel est le résultat de ça? Eh bien, tu as effacé la peine de mon péché. Et le début du psaume qui dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Qu'est-ce que vous remarquez dans le résultat de la confession? Heureux. Liberté, hein? La délivrance, c'est une liberté. Une liberté. Il dit aussi, une protection de la part du Seigneur. Alors, une maison d'adoration, de louange, de reconnaissance, de confession et une maison de combat spirituel. Parce que la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, hein, contre la nature humaine, mais contre, je vais vous mettre à l'écran, non, pas ça. Alors, Éphésiens 6 nous dit de s'équiper de la vérité, de la justice, de l'évangile, de la foi, du salut, de la parole de Dieu. Et il ajoute en disant ceci, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » On a tous à faire face à des combats spirituels de différentes natures. Et on a besoin de prier les uns pour les autres et de combattre spirituellement. Pour ceux, particulièrement pour ceux qui sont au front, les missionnaires, et les différents ouvriers, mais aussi pour chacun d'entre nous. Le combat spirituel, une maison de prière, c'est une maison qui apprend à déjouer et à neutraliser l'adversaire. Une maison d'intercession. Il y a des choses qui se passent dans le monde, plus proche de nous, pour lesquelles on est dépassé et qu'on ne peut rien faire. Mais on peut intercéder. Intercéder en dépendant de Dieu, avec foi puis avec amour, sachant que Dieu entend puis répond aux prières. Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, une toute petite graine, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Toute une promesse, ça. Toute une promesse. Quand on s'appuie sur le Seigneur, qu'on est motivé, conduit par son amour dans notre intercession, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. On est appelé à être une maison d'intercession. Es-tu une maison d'intercession? Bien, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est tout ça. Une maison d'adoration, de louange, de reconnaissance. Une maison de confession, de combat spirituel et d'intercession. La maison sera appelée une maison de prière. C'est pas qu'on est appelé à prier tout le temps. C'est qu'on est appelé à être dans une disposition où on se tourne vers le Seigneur. Régulièrement, constamment. Au lieu d'avoir un réflexe de se débrouiller tout seul, en indépendant, comme je suis habitué de le faire, mais d'avoir ce réflexe d'aller tout de suite au Seigneur, avec l'adoration, la louange, la reconnaissance, mais aussi l'intercession. Sachant qu'on est dans un combat spirituel. Oui. Peut-être ce matin, tu vas te dire que la marche est pas mal haute. Comment est-ce que je vais y arriver? Bien, c'est sûr que si je mets ça sur mes épaules, ça va être assez difficile, puis probablement qu'il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si je vais au Seigneur, et je lui demande à lui de le faire en moi. Mais je pense que c'est le genre de prière qu'il va apprécier, qu'il va être content de répondre. Je ne pense pas qu'on a à devenir une maison de prière, puis à se mettre le fardeau sur nos épaules. Jésus, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et nous sommes déjà, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On n'a pas à le devenir. On a juste à se laisser conduire par lui. Et lui demander au Seigneur de venir le faire en nous. En étant conscient qu'on... Moi, en tout cas, je suis conscient que je n'arriverai pas à le produire par moi-même. Que je reviens dans mon naturel assez vite, j'ai besoin d'y demander assez souvent. Je vous le confesse. Le Saint-Esprit habite en toi et tu es une maison de prière. Alors, il faut juste enlever les obstacles. Les obstacles, c'est que ça devienne une réalité. En chassant les voleurs du temple. Chasser les voleurs du temple. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. On vit dans un monde où on est extrêmement sollicité. Quand j'étais jeune, tout jeune enfant, on avait une TV noir et blanc. On avait la radio, puis c'était ça la sollicitation. Mais depuis une cinquantaine d'années, il s'en est ajouté des affaires. Il s'en est ajouté des babels où on est sollicité, non seulement par des appels automatiques sur notre téléphone, mais sur tous les réseaux sociaux. Dans les jeux vidéo, il y a de la sollicitation, du marketing. Bien qu'avec nos téléphones intelligents, il faut juste parler d'un sujet, puis les publicités sont sur les réseaux sociaux des gens. Ah, c'est fou! C'est fou comment est-ce qu'on est sollicité de toutes parts, puis si on ne fait pas attention, bien, on va mettre notre temps dans des choses, dans plein d'affaires, plein de choses qui nous intéressent, qui captivent notre intérêt, qui vont faire qu'on va négliger notre priorité. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Y a-tu des choses dans ta vie qui te vole ta vie spirituelle, qui te vole ta maison de prière avec ton Dieu? Qu'est-ce qui te prive d'être à chaque jour une maison de prière qui glorifie Dieu? S'il y a des choses dans ta vie qui sont un obstacle, mais chasse ces voleurs-là. Je t'encourage à faire un ménage. Peut-être, demande-les à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je chasse? Qui prend trop de place, trop de temps dans ma vie, qui fait que, qui m'empêche d'être une maison de prière comme tu voudrais qu'elle le soit. Jésus lui a fait trois choses. Premièrement, il est allé voir ce qui se passait au temple. Puis après ça, il a pris un temps pour rentrer. Ah non, excusez. Il est allé voir ce qui se passait au temple. Fait que je t'invite à prendre un temps pour rentrer en toi-même. Puis d'identifier, observer qu'est-ce qui se passe dans ta vie et identifier quels sont tes voleurs. Quels sont les marchands, les voleurs du temple dans ta vie. Deuxièmement, Jésus s'est retiré. J'imagine qu'il a prié et qu'il a médité là-dessus sur qu'est-ce qu'il allait faire. Mais je t'invite à faire la même chose. Réfléchis, prie le Seigneur, puis médite ce à quoi il t'appelle à faire, à changer dans ta routine, dans tes activités, dans ta vie. Demande au Seigneur de t'éclairer, de te diriger, de te conduire. Troisièmement, tu sais ce que la promesse que j'ai lue tantôt, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Pense deux secondes aux promesses de Jésus à la prière et pense à ce que tous les voleurs te privent de recevoir de Dieu. Pense à tout ce que tu as perdu de recevoir de Dieu à cause de ces voleurs-là. Ça devrait te mettre dans une sainte colère. Une sainte colère de Dieu pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. C'est inacceptable. Peut-être même dans certaines situations scandaleux. Et là, agis. Chasse ces voleurs-là. Mets-les dehors. Fais le ménage. Ils n'ont pas d'affaires dans le temple de Dieu, dans la maison du Seigneur. Jésus était scandalisé par ce qu'il voyait dans le temple. Ne soyons pas moins scandalisés de ce qui nous prive de recevoir ce que Dieu veut nous accorder, ce que Dieu veut nous donner et ce que Dieu veut accomplir en nous et parmi nous. Est-ce que c'est la vision capitaliste de la vie qui dirige du monde qui dirige ta vie? Gagner le plus possible pour pouvoir jouir le plus possible les choses de ce monde? Ou est-ce que c'est la vision par la foi de recevoir tout ce que Dieu a pour moi? C'est pas du tout la même vision. Hein? Ça va pas dans le même sens. Jésus a dit, non, Hébreu, c'est-à-dire, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, rendons grâce à Dieu pour ses bénédictions, pour ce qu'il nous accorde, mais n'en faisons pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est ce que Dieu veut accomplir en nous et par nous, et particulièrement en étant une maison de prière. On lit dans le passage que quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, il y en a qui n'étaient pas contents. On lit que les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Vous savez qu'il y a certains pasteurs qui enseignent que la richesse est une démonstration de la foi. J'ai même entendu un pasteur dire que ton salut n'est pas complet tant que tu n'es pas devenu riche. Et Jésus, lui, chasse les marchands et les vendeurs du temple. Quand on fait ça, quand on prend position, qu'on chasse nos valeurs du temple, bien, ça se pourrait qu'il y en a qui ne soient pas contents. Ça se pourrait que ta chair ne soit pas contente, ta propre chair. Ça se pourrait que ton conjoint, ta conjointe ne soit pas contente, ta famille ne soit pas contente, tes amis, tes collègues de travail, parce que tu accordes ta priorité parce que à être une maison de prière. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Face à l'opposition, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Attendez-vous à avoir de l'opposition. Si vous prenez position pour prier, pour mettre ça en priorité dans vos vies, vous allez avoir de l'opposition, de l'adversaire, et même peut-être même des gens proches de vous. La prière, c'est que chacun de nous devienne une maison de prière. Puis je ne vous dis pas que je suis arrivé, hein? Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce message-là, c'est que ça me fait du bien à moi aussi. J'en ai besoin. Je suis loin d'être arrivé, mais je sais que c'est à ça que Dieu m'appelle et je lui demande de plus en plus. Que par la puissance de l'Esprit, on ait le courage et la sainte colère de chasser tout ce qui nous vole notre vie spirituelle. En nous rappelant la promesse de Jésus, si vous demeurez en moi, je l'ai mis à l'écran. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis un autre. C'est dans 1 Jean 3 qui dit, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Confession. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Communion avec Dieu en tant que dépendant de lui. « Et voici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Foi en ses promesses et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné, communion les uns avec les autres. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous, pardon, par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors ça vient de clôturer la boucle. On a des promesses extraordinaires. Puis, je pense qu'on saisit pas assez comment de s'appuyer sur ces promesses-là. Ça peut changer nos vies, changer notre Église, avoir un impact chez nos proches, puis changer le Québec. Parce qu'on va intercéder pour le Québec. On prie là. Et Père, je te remercie pour ces merveilleux passages de ta parole qui nous exhortent. Tu nous appelles ce matin à être une maison de prière. Puis à chasser tous les voleurs qui ont pu y prendre place. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer puis de nous montrer le ménage qui a besoin d'être fait dans nos vies, dans nos occupations, dans notre temps. Nous te demandons, Seigneur, de bien réfléchir à ce que nous allons faire et à méditer et à te prier là-dessus, à être guidé par toi avec sagesse. Et une fois que notre décision est prise, Seigneur, suscite une sainte colère. Aide-nous à réaliser tout ce dont on a été privé à cause de ces voleurs. Parce que, Seigneur, nous voulons goûter, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ce réveil dans nos vies, dans nos églises, au Québec et dans le monde entier. Nous voulons être de ceux et de celles qui se mettent à genoux, qui intercèdent, qui prient pour que ce réveil vienne avant ton retour. Seigneur, utilise-nous. En nous-mêmes, on est bien faibles. Seigneur, fortifie-nous par ton esprit. Rends-nous de plus en plus dépendants de toi. Remplis de foi, fortifie notre foi. Et remplis de ton amour par ton Esprit Saint. Seigneur, on est totalement dépendant de toi pour ça. Viens le faire dans nos vies, t'en prie. Au nom de Jésus. Amen.